énervé. La radio qui pète une case !
Au mois de mars, Radio Énervé a pris part et a animé une journée un peu spéciale sur le thème de la jeunesse à Grangeneuve. Cette journée, intitulée « Je participe », était organisée par le service de l'enfance et de la jeunesse de Fribourg. Nous avons d'ailleurs parmi nous Pascal Pernet, collaborateur scientifique du SEJ et organisateur de cette journée. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, merci. Et vous ?
Mais très bien, merci. Une première question. Vous avez quel âge, si c'est pas trop indiscret ?
J'ai 30 ans.
Et du coup, vous vous considérez comme jeune ou plus très jeune ?
Oui, je me considère encore comme jeune, même si j'ai perdu déjà quelques cheveux et même si j'ai 30 ans dans deux semaines. Je me considère encore comme jeune, oui.
Allez. Bah, en tout cas, joyeux anniversaire en avance, comme ça c'est dit.
Merci.
En tout cas, vous êtes ici parmi nous car nous avons décidé de relater, de partager avec nos auditeurs ce qui s'est passé durant cette journée à Grangeneuve. Et pour le faire au mieux, nous avons choisi une dizaine de phrases, ou plutôt d'interventions, des différents invités qui ont pris la parole durant l'événement. Madame Prat, qui est historienne, ouvre le bal des discussions. Et elle a parlé du statut des jeunes du 19e siècle à aujourd'hui.
Parce qu'effectivement, il est évident pour nous que les enfants et les jeunes ont des droits, mais c'est une évidence qui n'a pas existé de toute éternité. Elle a émergé dans un contexte précis, en lien avec des changements économiques, des changements politiques, et ces droits ont fait l'objet de débats qui, aujourd'hui, nous scandalisent. Comment pouvait-on trouver, par exemple, normal que des enfants de 14 ans travaillent 10 heures par jour, à l'exemple de ces adolescents anglais, ou alors, plus près de chez nous, à l'exemple de ces jeunes garçons de la fabrique de Bro en Gruyère.
Et vous, comment pensez-vous qu'on pouvait justement laisser travailler ces enfants de 14 ans 10 heures par jour ? Comment c'est possible ?
C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement explicable d'un point de vue contemporain, mais je pense que c'était un système qui voulait que les enfants aillent travailler au champ pour rapporter un peu d'argent à leurs parents ou bien les aider dans leur travail. On n'avait peut-être pas une idée aussi forte qu'on a maintenant de l'enfant qu'on doit éduquer, qu'on doit mener à une formation et puis surtout mener à un travail. Et c'est quelque chose effectivement qui a beaucoup évolué et je pense que dans ce contexte, la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant a joué un grand rôle. Elle a marqué peut-être la transition entre l'enfant objet, justement l'enfant travailleur, l'enfant possession de ses parents, vers un enfant sujet de droit et un enfant qui a le droit de dire son avis aussi sur des choses qui le concernent.
Et est-ce que vous pensez que cet enfant était justement objet parce qu'on ne savait peut-être pas forcément que c'était dangereux pour leur santé de trop travailler ou comme ça, ou même pas forcément ?
Mais je pense que vous voyez assez juste, le travail faisait partie de la vie. Et je crois qu'il y a d'ailleurs même des études qui montrent que dans les années 40, ça c'est une étude qui a été faite dans le canton de Lucerne, on demandait aux enfants s'ils aimaient travailler et la plupart disent oui. Donc c'est quand même quelque chose de culturel qu'on doit aussi éviter aujourd'hui de trop diaboliser. Ça faisait partie, je crois, du quotidien, d'une certaine normalité. Alors aujourd'hui, de notre point de vue, c'est clair qu'il y a eu des excès innommables et abominables. Et tant mieux, je crois qu'aujourd'hui, on a fait un progrès de ce côté-là.
Je suis d'accord. Je trouve aussi que trop souvent, les adultes ont une vision négative des jeunes. Même Socrate disait déjà dans ses écrits qu'on était des sales gamins. Alors, bon, écoutons la réponse de Madame Prat.
La jeunesse suscite une certaine crainte à toutes les époques parce que, en fait, la jeunesse, elle est pleine d'énergie, elle dispose d'un regard neuf sur le présent, un regard qui n'est pas encore empreint d'habitude, de réalisme. Et donc, elle se dit, tiens, ça n'existe pas, mais pourquoi ça n'existe pas ? On pourrait faire changer les choses. Donc, il y a cette vision, il y a cet optimisme. Et puis, donc, ça fait peur, effectivement, parce qu'on craint d'être bousculé. Mais en même temps, je dirais qu'il faut, il faut regarder les deux côtés, parce qu'à chaque période, vous avez des discours de ce type. La jeunesse, rien ne va plus. Et puis, vous avez d'autres discours qui disent la jeunesse, c'est l'avenir, c'est extraordinaire. Donc, il y a aussi toujours cette ambivalence. Alors, ça, je dirais, ça ne change pas. Il y a ce discours ambivalent sur la jeunesse qui fait peur et qui donne de l'espoir d'un autre côté. Ce qui change, par contre, et c'est parce que si ça changeait jamais, on n'aurait pas besoin de faire de l'histoire. Ce qui change, par contre, c'est que quelles sont les circonstances, quelles sont les conditions dans lesquelles cette jeunesse peut être entendue ou pas ? Et ça, je crois que l'histoire nous aidera à comprendre ça. C'est ce qui est important de voir, est-ce que c'est ce discours de la peur de la jeunesse qui domine ? Alors, si c'est ce discours-là qui domine, on va voir ce contrôle de la jeunesse qui va être très fort. Ou bien alors, est-ce que c'est un discours qui est plus positif ? Et puis, à ce moment-là, les jeunes auront plus d'espace. Mais comme j'ai montré dans mon exposé, il y a toujours cette tension entre contrôler, laisser s'exprimer, mais...
Et vous pensez quoi de nous, Monsieur Pernet ?
Alors, moi, je vous trouve super. C'est clair, je dois abonder dans le sens de Madame Prat. Je pense que cette vision peut-être négative qui existe de la jeunesse, elle est due surtout à la différence qui existe entre les adultes et les jeunes, où les jeunes ont, je pense, en une certaine part de créativité, des idées nouvelles que les adultes n'ont peut-être plus forcément parce qu'ils ont... Ils sont passés par la moulinette du formatage. C'est peut-être un peu pessimiste, mais il y a quelque chose, je crois, qui existe, c'est que les jeunes sont peut-être libérés, plus libres du poids culturel et social que la société impose. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans.
Et parfois, peut-être qu'on remarque aussi plus tous les ados qui font des conneries ou des choses qu'il ne faut pas, et on remarque moins tous ceux qui vont bien, je pense.
Oui, ça c'est un fait. Hein. Je crois qu'on parle beaucoup des 5% ou des 10%, ou en tout cas de l'infime minorité qui chahute un peu trop. Mais effectivement, je crois qu'il faut toujours se rappeler que l'immense majorité va très bien, se comporte très bien. Et là, il n'y a rien à dire en fait.
Également parmi nous durant cette journée, la responsable de l'UNICEF Suisse. Et celle-ci nous dit comment on doit être avec nous. Elle cite nos besoins et je crois qu'elle a assez raison.
Kinder brauchen eine Gesellschaft, die ihnen das Leben zutraut. Kinder brauchen ein stabiles Umfeld, das ein wohlbehaltenes Aufwachsen ermöglicht und sie wohlwollend begleitet. Kinder brauchen Entscheidungsträgerinnen, die die Grundidee der Kinderrechtskonvention bejahen und sich ihrer Verantwortung nicht entziehen. Kinder brauchen Räume, die es ihnen erlauben, auszuprobieren, sich gestaltend und verantwortungsvoll zu erleben. Kinder brauchen wohlwollenden Widerstand, um ihre eigenen Kräfte zu messen und sich im gemeinsamen Tun erkennen zu können. Auch aber gemeinsame Lösungen zu finden. Und Kinder brauchen Erwachsene, die nicht vorspielen, Kinder ernst zu nehmen, sondern die sich ihnen verpflichtet fühlen. Menschen eben, die es gewohnt sind und die es möchten, dass sie Kinder auf Augenhöhe 1,20 begegnen. Auf den Punkt gebracht, Kinder brauchen Lebensbedingungen, die sie fördern, aber eben auch fordern. Denn Kindheit ist keine Shoppinglist, keine Kindlichkeit vorgespielt von Erwachsenen, sondern Kindheit, und wir haben die Pflicht, uns dieser zu stellen, heißt Ernsthaftigkeit, Verantwortlichkeit, Klarheit und Wohlwollen von unserer Seite. Und wenn ich von Kindern spreche, dann spreche ich vom Alter 0 bis 18, weil die Kinderrechtskonvention dieses Alter oder diese Altersspanne letztendlich schützt und fördert.
Ça avait l'air très intéressant tout ça, mais je ne suis pas certaine que nos auditeurs aient tout compris, et d'ailleurs moi non plus. Vous pourriez nous faire un petit résumé du contenu de ces paroles, s'il vous plaît ?
C'est vrai que Mme Muller a mentionné beaucoup de besoins que les enfants et les jeunes avaient. Je pense que ce qu'elle a voulu faire, ce qu'elle a voulu dire de manière un peu résumée comme ça, c'est qu'elle a voulu rendre un plaidoyer pour une politique de l'enfance et de la jeunesse qui tente de mettre sur pied des conditions de vie pour les enfants et les jeunes qui leur permettent de grandir de manière harmonieuse. Alors elle a parlé de lieux de vie dans lesquels les jeunes que les jeunes pouvaient s'approprier, soit avec la présence des adultes, soit sans la présence des adultes. Elle propose aussi de favoriser les contacts et les liens sociaux que les jeunes peuvent avoir entre eux. Enfin, en un mot, je crois aussi qu'en quelques mots, elle dit aussi que les jeunes ne doivent pas être considérés comme des objets des politiques de l'enfance et de la jeunesse, mais comme des sujets de droit, et qu'il faut considérer comme des êtres capables de prendre des décisions sur les sujets qui les concernent.
En fait, les enfants, comme vous dites, ils ont un peu besoin de tout. Et l'adulte, lui, enfin, il fait comment avec tout ça ?
L'adulte, comment il fait avec tout ça ? Eh bien, il laisse une place à l'enfant. Je crois que c'est le gros challenge pour l'adulte, c'est de lui laisser une certaine bulle qui lui permet donc à l'enfant de développer ses propres compétences, de n'être parfois pas d'accord et de contester. Et il lui laisse la possibilité de dire son avis et de monter aussi peut-être ses propres projets. Je crois que ça, c'est vraiment le rôle de l'adulte, laisser une place aux enfants et aux jeunes.
Donc en gros, l'adulte doit laisser l'enfant forger son propre opinion, mais pas trop, pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Pouf, je me réjouis pas de devenir parent, ça a l'air trop compliqué. Enfin, et, oui, vous voulez dire quelque chose ?
Mais c'est clair que faire participer ou mettre sur pied des structures participatives en faveur des enfants et des jeunes, ce n'est pas quelque chose de si facile que ça. On vise d'une part l'autonomie des enfants et des jeunes, on est censé en tant qu'adulte les mener vers ce but-là, mais d'un autre côté, on aimerait aussi qu'ils s'intègrent. Et c'est clair que là, il y a deux buts qui peuvent parfois se confronter et poser certaines difficultés à l'adulte qui met ses politiques en place.
Bon, d'un côté, si tout était facile, ça ne serait pas non plus super intéressant.
Exactement.
Mais vous ne trouvez pas que cette dame est un peu dogmatique, un peu idéaliste sur le fait de comment il faut élever l'enfant ?
Je pense qu'elle défend des idées, comme toute politique, elle se base sur ses idées. Donc, comment dire ? Je pense que même que les personnes qui se disent très pragmatiques et de terrain agissent selon des idéaux. Et je crois que c'est ce que Madame Muller veut bien faire. Elle a un message à faire passer, voilà.
D'accord. Mais elle disait même à un moment que les jeunes, enfin, nous, on participait pas assez au processus de décision de l'école, mais je vois pas comment on pourrait plus nous intégrer pour décider les choses. Enfin, je veux dire, on va quand même pas se mettre à décider du nombre de notes qu'on va devoir avoir durant l'année ou la matière à évaluer ou de la manière même d'évaluer les choses, du nombre d'heures de maths qu'on a par semaine, je sais pas, moi.
Alors, la question, elle est très intéressante, mais je pense pas qu'il s'agit de laisser les enfants et les jeunes décider de tout, surtout. Donc il s'agit pas d'ériger une sorte de dictature des enfants ou de faire de l'enfant un roi. Et en l'occurrence, si je pense à l'extrait de Madame Buller, je dirais que elle faisait pas directement allusion, disons, au contenu des cours de maths, mais elle pensait peut-être à l'école de manière plus générale, de l'école en tant que lieu de vie. Je pense qu'il y a des questions dans lesquelles vous, en tant que jeune, vous pouvez dire votre avis. Comment aménager, par exemple, le préau de l'école ou la cour d'école ? Quels sont les projets qui vous motivent dans les établissements, par exemple, comme cette radio j'imagine que vous avez aussi des idées à transmettre à Monsieur Devara qui est là pour cette radio. Ça, c'est des formes de participation déjà. Mmh. Ou qu'est-ce qu'on pourrait encore imaginer ? Les règlements d'école, par exemple. Est-ce que les règlements sont faits par les adultes et ils sont imposés aux élèves, aux jeunes ? Ou est-ce que les jeunes sont considérés comme des partenaires de dialogue ou même des négociateurs avec lesquels il faut travailler pour arriver à un produit final. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'elle voulait aller.
Plus par rapport à comment on vit tous ensemble sur ce genre de choses.
C'est exactement. C'est très en lien, disons, avec le thème du vivre ensemble.
D'accord. Bon, parole aux jeunes maintenant, enfin. Et à monsieur Kéru, votre chef, c'est ça ?
C'est bien ça, c'est mon chef.
Allez, écoutons.
Salut, tu vas bien ?
Ouais, toi ?
Moi, ça va très bien. T'as besoin de quelque chose dans la vie ? Ouais.
Une copine?
Bah, je m'en fous, moi, c'est égal.
Salut, vous allez bien?
Oui, et toi?
Oui, et toi?
Oui, et toi?
Oui.
Est-ce que vous avez besoin de quelque chose?
Non.
Non?
Non. Et il n'y a pas quelque chose qui vous manque dans votre vie?
Non.
Non.
Non. Vous êtes sûre?
Oui, sûre.
Sûre, mais certaine.
Alors, vous voyez bien, nous, on va bien. Alors, pourquoi vous faites une journée pareille? Plus sérieusement, c'est quoi le but de cette journée, à part dépenser de l'argent?
Bon, bah écoutez, cette journée, c'est une première étape dans le contexte d'une stratégie qui vise un plan d'action et des recommandations aux communes. Donc, la matinée, ce matin, est l'occasion de vous présenter les travaux prévus dans le cadre de la stratégie 2015-2017 « Je participe ». Et d'entendre des experts et des expertes sur des thèmes relatifs à l'enfance et à la jeunesse. Vous découvrirez également les divers visages d'une jeunesse qui s'engage et qui s'exprime. Et puis, cet après-midi, on propose un moment de partage et d'échange. Cette journée donne concrètement la possibilité aux acteurs que vous êtes de la politique de l'enfance et de la jeunesse de donner leur avis sur les priorités à retenir de la politique de l'enfance et de la jeunesse.
Bon, voilà, on arrive à l'explication de ce que l'État de Fribourg veut faire. Et vous, Monsieur Pernet, vous êtes l'un des coordinateurs de cette journée, de ce projet qui va durer 3 ans. Et on a entendu votre chef de service. Mais que pouvez-vous rajouter de peut-être plus concret par rapport à ce qu'il vient de nous expliquer?
Alors, je pense que dans le canton de Fribourg, il y a une pléthore d'offres qui est destinée aux enfants et aux jeunes. Et puis, cette stratégie, elle aimerait un petit peu, fixer des priorités là-dedans. Que peuvent faire les autorités de manière prioritaire, justement, pour améliorer les conditions de vie des enfants et des jeunes? On a 3 ans pour faire ça et voilà, je pense qu'une société qui se pose cette question-là, elle est toujours, voilà, elle est plus intelligente qu'une société qui fait semblant de savoir ce qui est prioritaire et qui continue comme si de rien n'était. Donc, on aimerait arriver, comme l'a dit M. Kerry, en 2017, à un plan d'action où là, on aura des mesures bien concrètes qui devront après être mises sur pied. Dès 2018.
Donc un plan d'action justement pour pouvoir faire participer les jeunes plus dans la vie de tous les jours, un peu dans la vie un peu des adultes, on pourrait dire.
Alors ça pourrait être une mesure. En fait, okay. Un plan d'action, c'est une liste de mesures. Hein, on pourrait imaginer point numéro 1, favoriser la participation des enfants et des jeunes dans les écoles. En mettant sur pied, c'est l'exemple peut-être un peu type, mais en mettant sur pied des conseils de classe ou des délégués de classe. Ça, c'est une forme de participation. Et puis ça, ce serait un point d'une mesure bien concrète dans un plan d'action. Où on pourrait s'imaginer, dans une recommandation aux communes, les communes sont invitées à mettre sur pied, 3 activités extrascolaires par mois durant toute l'année. Ça, c'est par exemple aussi quelque chose de très concret, une mesure qui pourrait ressortir de cette stratégie en 2017.
Okay,
je ne sais pas si c'est plus clair.
Oui, c'est plus clair.
N'hésite pas à me poser des questions à ce sujet. C'est vrai que moi, je suis dedans depuis un petit moment et des fois, c'est bien d'être confronté à des questions comme ça.
D'accord. Madame la conseillère d'État Anne-Claude Demierre était aussi de la partie et nous avons décidé de vous faire écouter son discours ainsi que sa motivation personnelle sur ce projet.
Et vous? C'est quoi votre motivation personnelle?
Ma motivation, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des politiques dans ce canton qui vont dans le sens de permettre aux jeunes et aux enfants de ce canton de pouvoir se développer, d'avoir droit d'abord évidemment à une formation, mais ensuite de pouvoir se développer dans un cadre et dans un canton où il fait bon vivre. Et c'est vraiment ce qui me motive. J'ai 3 enfants personnellement, donc je vois assez bien comment ça fonctionne. Je connais aussi les besoins et c'est vraiment cet engagement-là.
Est-ce que vous partagez aussi les rêves de Madame Demierre?
Oui, bien sûr. Je crois qu'on travaille sur le vivre ensemble, sur les conditions de vie de manière large. Et on doit, en tant qu'adulte, se poser la question comment faire pour éduquer nos enfants au mieux. Et puis, cette éducation, elle correspondra aux besoins véritables des enfants et des jeunes si on les écoute, si on fait avec et si on les considère comme des partenaires de dialogue.
Elle parlait aussi à un moment de la formation des élèves, mais elle entendait quoi par là ? Améliorer la formation par rapport à ce que c'est maintenant ou...
Alors, la formation, c'est un pilier, un des quatre piliers de la politique de l'enfance et de la jeunesse. Donc, le canton de Fribourg part du principe que pour un développement harmonieux, il faut que les enfants et les jeunes se forment, donc aient accès à l'école, qui après mène à des certificats, à des papiers. Donc, ça, c'est plutôt ce qui relève de la formation plus classique. Les enfants et les jeunes doivent être protégés, donc ça c'est le pilier de la protection contre les dangers qui les menacent. Ça concerne aussi tous les programmes de prévention contre les dangers de fumée, d'alcool, de drogue, etc. Le pilier de la promotion, c'est le troisième pilier, qui part du principe que les jeunes ont des compétences à développer aussi en dehors de l'école, c'est-à-dire que si un jeune met un projet sur pied, par exemple, il gagne en savoir-faire, en compétences, et puis c'est quelque chose aussi qui le fera grandir lui-même pour sa vie, pour son avenir. Et puis le dernier pilier, c'est le pilier de la participation. C'est un peu aussi notre cheval de bataille au bureau de promotion des enfants et des jeunes. Et là, justement, on essaye un maximum de faire respecter la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, qui veut que chaque enfant et chaque jeune soit entendu sur les questions qui le concernent. Alors, je pense que Mme Demierre, quand elle pensait ici à la formation, elle pensait justement au premier pilier pour en revenir à la question.
Donc il faudrait encore améliorer la formation pour les jeunes, selon elle.
Oui, mais je pense que
on peut toujours faire mieux.
Ouais, exactement. Je crois qu'en tant que politique, mais peu importe la fonction qu'on a, on doit tendre et on doit vouloir faire mieux toujours.
Ok. Bon, revenons un peu sur le sujet à proprement parler, qui dans la réalité, je suppose, doit souvent soulever ce genre de questions, mais que faire vraiment concrètement pour que les jeunes aillent mieux ? Que faire pour qu'ils aient réellement une place qui leur convienne au mieux ? Et donc voici la réponse de Christelle Berset. C'est elle qui pilote le projet Je Participe, c'est bien ça ?
Alors, on a mis sur pied un comité de pilotage qui est composé de différentes personnes qui représentent les communes et les différentes directions de l'État. Madame Berset est la déléguée francophone à l'enfance et la jeunesse. Donc, si vous voulez, c'est ma chef. Donc, okay. Elle est aussi très, très impliquée dans le projet, bien évidemment.
Alors, écoutons votre chef.
Ainsi, une grande majorité des mesures se focalisent surtout sur les problèmes que rencontrent les jeunes. Alcool, violence, délinquance, dépendance aux écrans. Mais beaucoup moins sur les conditions cadres qui sont nécessaires à leur épanouissement. Pour le pilier de la participation, cette enquête montre que même s'il existe un conseil des jeunes, qui est d'ailleurs présent aujourd'hui au niveau cantonal, on ne considère pas encore vraiment les enfants et les jeunes comme de véritables acteurs des politiques que nous voulons mettre en place. Ils ont encore trop peu de possibilités de s'exprimer et d'être entendus. Maintenant, au niveau de la coordination, l'enquête a mis en évidence que nous sommes confrontés à un foisonnement d'organes de coordination qui portent des politiques transversales. On a relevé pas moins de 30 commissions à l'État de Fribourg qui sont concernées et qui traitent d'une manière ou d'une autre les questions de l'enfance et de la jeunesse. Je citerai la commission de l'enfance et de la jeunesse déjà, mais la commission pour la promotion de santé, le conseil de sécurité et de prévention, la commission pour l'intégration, pour l'insertion professionnelle, etc. Donc ce foisonnement d'organes de coordination va de pair aussi avec un manque de vision claire, car souvent il y a peu de liens entre ces différents organes. Et pourtant, une coordination aura là un impact certainement très important sur l'amélioration des conditions de vie pour nos enfants et jeunes.
Donc Madame Berset nous dit qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les différents organes pour les jeunes, mais alors est-ce qu'il y a un moyen de relier ces organes pour qu'il y ait justement une coordination qui soit meilleure ?
Alors ça c'est... J'espère qu'il y a moyen. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est vrai que chacune de ces commissions a un thème bien particulier. Et chacun regarde aussi les questions de l'enfance et de la jeunesse avec sa lunette qui lui est propre. Et parfois, c'est vrai, on a un peu tendance à s'oublier les uns les autres et à travailler chacun dans son coin. Et j'espère bien que tout ça va pouvoir s'améliorer dans un futur proche.
D'accord. Voilà, on a pas mal défriché la thématique, je trouve. Et maintenant, j'aimerais bien passer à des choses un peu plus concrètes. Monsieur Pernet, vous n'avez pas l'impression que dans des journées comme celle-là, on cause beaucoup, on rigole un peu parfois, mais finalement, à la fin, on brasse beaucoup d'air et on ne fait pas grand-chose?
Non, écoutez... ce qu'on fait là, c'est du sérieux. Hein. C'est un gros projet... Et je crois qu'il est nécessaire de se rencontrer, hein, c'était la première journée cantonale, de se rencontrer, de faire un brainstorming, de demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent. On met des idées sur la table, ensemble on discute, on retient la meilleure proposition ou les meilleures propositions. Et je pense que c'est vraiment utile de faire ce genre de rencontre pour pouvoir après mettre sur pied des politiques qui vont dans le bon chemin et qui correspondent véritablement à ce qui est exprimé, disons, par les gens qui travaillent aussi au quotidien avec les enfants et les jeunes. Et je ne pense pas qu'on brasse de l'air. Ou si on embrasse, on embrasse à bon escient. Voilà.
Et vous devez faire beaucoup de réunions comme ça avant de pouvoir vraiment agir concrètement dans la vie de tous les jours.
Alors, la stratégie cantonale « Je participe », elle est composée de trois journées comme celle à laquelle vous avez pu participer le 27 mars. Donc la première journée, on a pu délimiter des priorités cantonales, donc des priorités larges, par exemple renforcer la participation des enfants et des jeunes ou renforcer l'animation enfance-jeunesse. C'est des choses qui sont ressorties de cette journée. Maintenant, la deuxième journée, on va parler de ces grandes priorités qui auront été définies durant la première journée. Et puis, on va se poser la question comment faire concrètement pour mettre cette priorité sur pied. Donc ça, ce sera la deuxième. Et puis, on aura aussi une troisième. On va se poser la question de... Voilà, on aura décidé de mesures et puis on va discuter du comment implémenter, soit dans les communes, soit au niveau de l'État, les mesures qui auront été décidées lors de la deuxième journée cantonale.
Alors, pour éviter qu'on fasse rien de tout ça, voici quelques interventions qui dirigeront certainement votre action, ou plutôt notre action par rapport aux jeunes dans les 3 ans à venir.
Mais je crois qu'en tant que collectivité publique, la pire des choses qu'on pourrait faire, c'est pas voir l'avenir et c'est ne pas investir pour l'avenir, parce qu'à ce moment-là, on ferme et on ne donne plus de possibilités, on ne donne plus de rêves à notre population.
Waouh ! Il parle bien le préfet de la Glane, presque aussi bien que le nôtre, hein, mais bon, quand même. Hein. Mais bon, on a vraiment les moyens sur Fribourg d'investir dans tous ces projets ? On ne fait pas déjà des économies partout ?
Alors bon, c'est vrai qu'on fait des économies, moi ça c'est aussi une question, ouais, ma foi très politique que vous me posez là, je ne sais pas si j'ai la légitimité de m'oser sur ce terrain, mais je vais peut-être rebondir sur ce que disait M. Chorderet, qui est le préfet de la Glane. C'est vrai qu'il est raisonnable d'axer les politiques publiques en direction des enfants, étant donné que de tous les groupes d'âge, c'est celui qui a le plus long avenir. Et puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'OCDE, je crois, l'Organisation du Commerce. Et... Passons.
D'accord. Alors écoutons André-Jacques Dodin.
En matière de politique de jeunesse et d'enfance, mais de jeunesse, je crois qu'il faut aussi surtout aider les jeunes à être jeunes. Pas seulement toujours penser les jeunes comme de futurs citoyens, de futurs...
politiciens.
Etc., etc. Je crois qu'il faut arrêter de s'angoisser là-dessus. Il faut aussi... Parce que permettre aux jeunes à vivre comme jeunes, c'est très, très important pour eux, justement, de pouvoir prendre le pouvoir et pouvoir décider sur leur propre vie. Donc ça, je pense que c'est une question importante. Trop souvent, nous, adultes, on pense aux jeunes comme de futurs citoyens. On se projette toujours dans l'avenir, alors qu'on oublie parfois qu'ils ont le droit d'être jeunes aussi, les jeunes. Hein. Nous, on a eu le droit d'être jeunes, donc...
Alors là, je suis complètement d'accord avec lui. Hein. Mais il me semble que c'est surtout des vieux qui nous dirigent. Alors, est-ce qu'on peut être jeune tout en étant un peu vieux, enfin, un peu comme vous?
Oh là là.
Non, mais je ne veux pas dire que vous êtes du vieux.
Vous êtes
mais...
dur. Je viens de vous dire que je me sentais jeune. Non. Oui, ben, je pense qu'on peut aussi, surtout en étant d'un âge avancé ou d'un certain âge, être ouvert. Et puis, l'ouverture, c'est accepter aussi de se remettre en question et d'accepter de se confronter à la jeunesse et à ses idées novatrices.
En plus, nous, dès qu'on se plante, dès qu'on fait une erreur, bah, ensuite, on ne peut plus rien faire. Franchement, c'est bien que ça change.
Dass Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die sich engagieren, eben nicht immer Erfolg haben. Also, wie soll ich das sagen? Es müsste auch Platz haben für Fehler im Sinne einer richtigen Fehlerkultur. Nicht jedes Projekt kann völlig erfolgreich sein.
Oula, de nouveau de l'allemand. Bon, vous voulez bien nouveau nous faire un petit résumé parce que pouf, j'ai rien compris.
Oui, je pense que le message de Barbara Ackermann, qui est la présidente de Frisbee, le réseau des organisations de jeunesse du canton de Fribourg, son message consistait surtout à dire qu'on a trop tendance, de manière générale, à approcher l'erreur de manière trop sévère, en somme. Et elle pense, enfin là je traduis un peu ces mots, mais que cela paralyse finalement les initiatives, et puis qu'est-ce qu'il y a de pire que de ne rien faire parce qu'on a peur de faire faux. Donc voilà, justement, on apprend de ses erreurs et puis je crois qu'on voilà, les erreurs font avancer et puis c'est avec cette culture-là aussi qu'on devient proactif et qu'on fait avancer les choses.
Moi, je vous propose que vous allez discuter avec notre directeur à propos des erreurs parce que nous, on en fait sans arrêt puis c'est pas toujours accepté. Vous pourrez peut-être lui dire que c'est normal.
T'as son numéro ?
Non, j'ai pas, mais vous pouvez aller toquer là-bas. Je sais pas s'il est encore là, peut-être.
Ça a marché après.
Enfin, merci. On a pris note, en tout cas, de vos très bonnes intentions par rapport à toutes ces choses. Et on se réjouit de vous recroiser dans 3 ans pour voir si ce projet aura vraiment tenu ses promesses et si vous avez effectivement pas brassé de l'air. On verra tout ça. Non, mais je pense pas. Nous, en tout cas, les jeunes, on osera vous le dire si c'est bien ou pas, c'est promis. Mais pour ça, n'oubliez pas de nous le demander, de nous demander notre avis. Bon, pour terminer, on va écouter les vœux, les attentes de Vincent Neuhaus, Julie Heckley, Mélanie Schneider et Barbara Ackermann. Ces 4 jeunes nous disent ce qu'ils désirent, ce qu'ils attendent de vous, les vieux du SEJ, du politique, des décideurs. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de les écouter. Mais bon,
volontiers.
Avant de leur donner la parole, pouvez-vous juste nous dire la suite du programme ? Enfin, vous en avez parlé un petit peu avant, mais je crois qu'en octobre, il y a une action 72 heures et ça consiste en quoi ? Et après
Alors, l'action 72 heures, c'est un projet en fait, qui donne l'occasion à la jeunesse de montrer de quel bois elle se chauffe. En d'autres termes, c'est une occasion pour chaque jeune du canton de Fribourg de mener un projet d'utilité publique pendant 72 heures du 10 au 13 septembre 2015. Donc là, je m'adresse aussi à tous ceux qui écouteront cette émission. Inscrivez-vous, faites une action d'utilité publique. Ça peut être très large. On peut toucher au domaine du social, on peut toucher au domaine du développement durable, au thème de l'écologie ou que sais-je encore. Il y a plein de possibilités de s'engager pour l'utilité publique. C'est une action qui se passe au niveau suisse du 10 au 13 septembre. 30 000 jeunes se sont engagés durant la dernière édition et on espère bien battre le record. Donc voilà, si vous avez des idées de projets d'utilité publique, n'hésitez pas à nous faire signe. Vous pouvez aller regarder le site action72heures.ch.
Ok, je note ça et j'irai voir.
Peut-être je rajouterai aussi dans le cadre de la stratégie, ça c'est quelque chose de plus immédiat, mais la journée cantonale du 27 mars a fait l'objet d'un résumé où on a pu mettre les priorités qui sont ressorties de toutes les propositions qui ont été faites par les gens qui étaient présents. Et ce résumé n'est pas un but en soi, mais il est là pour inviter les gens à remettre leurs propositions. Donc voilà, si vous trouvez qu'il y a des choses à faire dans ce canton pour les enfants et les jeunes et que vous trouvez qu'il y a un thème qui est prioritaire, vous pouvez aussi nous le faire savoir au Bureau de promotion de l'enfance et de la jeunesse en utilisant notre page web www.fr.ch/enfance-jeunesse. Et puis là, vous pouvez aller sur notre formulaire de contact pour nous dire ce que vous en pensez. C'est vraiment un processus participatif qui permet à tout le monde de dire son avis. Et surtout, on invite les 0-25 ans à nous dire leur avis.
Bon, alors,
on en tiendra compte.
D'accord. Tous nos écouteurs qui ont 0 et 25 ans, j'espère que vous avez tout noté. En tout cas, pour vous, Monsieur Pernet, au nom de la radio Énervée, nous tenons vraiment à vous remercier. Effectivement, grâce à vous, nous avons eu la chance de participer à ce processus Je participe. Nous avons pu porter un peu la voix des jeunes. Pour la radio Énervée, c'est ça, son but. Alors, vraiment, un énorme merci.
Mais merci. C'est moi qui vous remercie. C'est nous qui vous remercions, plutôt. Ouais.
Trop de merci. Et puis, à quelque part, faire de la radio, c'est participer à la vie des plus anciens, de ceux qui décident, de pouvoir transmettre aussi un message en tant que jeune. La radio, faite par les jeunes, c'est vraiment un moyen de participer pour de vrai.
Exactement.
Alors, n'oubliez pas de nous écouter.
Je ferai sans faute.
C'est très bien. Au revoir, Monsieur Pernet.
Au revoir, merci.
Place aux besoins des gens du terrain.
Qu'est-ce que cette politique de l'enfance et de la jeunesse devrait atteindre selon l'avis du Conseil des jeunes? C'est une politique de l'enfance et de la jeunesse pour l'enfance et de la jeunesse, mais ça doit aussi être une politique qui est faite par les enfants et par les jeunes. Et c'est seulement si on arrive à intégrer ces jeunes dans la politique qu'on met à leur disposition qu'elle peut être considérée comme réussie. Et je crois, d'après la présentation effectivement qu'on a eue de la part de l'UNICEF tout à l'heure, au niveau des communes, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre vers le haut pour améliorer le taux de participation des jeunes. Et peut-être que cette politique de l'enfance et de la jeunesse portera ses fruits dans le prochain sondage dans 10 ans. Espérons-le.
Ja, mein Wunsch ist es eigentlich, mehr Chancengleichheit für alle zu schaffen. Kreativität und Vielfalt zu fördern und die Neugier und die Offenheit zu wecken. Weiter hoffe ich, dass wir alle jungen und engagierten Leute mehr wertschätzen können, dass wir ihnen mehr vertrauen können und ihnen auch mehr Unterstützung geben können.
Mein Wunsch ist, also man sieht bei den 30 Organisationen, die bei Frisbee sind, die ganze Vielfalt. Sommerlager organisieren von Jugendlichen, Zirkus, Theaterführungen auf die Beine stellen, also für die Bedürfnisse Kinder und Jugendlicher einstehen als Organisation. Und man sieht, was diese Organisationen alles schaffen können. Das heißt eigentlich durchmischte Gemeinschaft leben und Engagement. Und ich wünsche mir eben, dass man eine richtige Verantwortung erhält und auch also als ebenbürtige Akteure wahrgenommen wird, sei es also bei gesellschaftlichen Entscheiden, sei es eben beim Gestalten von öffentlichen Plätzen zum Beispiel, zum ganz konkret zu werden. Und dazu braucht es auch die richtige, sage ich jetzt mal, richtige Akzeptanz oder richtige Position, die uns gegeben wird im außerschulischen Bereich, also auch eine Unterstützung, finanzielle Unterstützung, ich nenne das gerade beim Wort, es sind viele Gemeinden hier, also diesen Bereich auch wirklich so zu akzeptieren und zu unterstützen, dass es möglich ist, weil Kinder und Jugendliche, die sind nicht wie ein anderer Verein, die können nicht 150 Franken Mitgliederbeitrag zahlen, das geht nicht und diese Rolle als außerschulischer Akteur muss auch finanziell unterstützt werden und getragen werden. Weil, das muss ich noch andeuten, es sind ganz viele ehrenamtliche Stunden, die da investiert werden. Sehr viel in diesem Bereich passiert ehrenamtlich. Das heißt, das investierte Geld wird vielfach multipliziert.
En revenant un peu sur les propos que j'ai dit avant vis-à-vis des critiques que le monde peut avoir vis-à-vis des jeunes, je dirais qu'on critique aujourd'hui les jeunes qui finalement nous dirigeront demain. Une priorité, ça serait peut-être de simplement les voir leur travail et valoriser
Énervée,
ce travail.
La radio ouragan.
Comme un ouragan qui est passé sur...
Ah non, ça suffit, là, s'il vous plaît, quoi.
Mmh. we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
So we all must lend a helping hand.